La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Et au menu de notre club cet après-midi, la science de la foule qui intéresse de nombreuses disciplines pour essayer de dompter cette mystérieuse créature qu'est la foule. Nous irons également à Lyon au musée des Confluences pour découvrir le peuple des coléoptères. Et puis nous ferons connaissance avec un génie de l'internet, Aaron Swartz, dont la vie s'est terminée tragiquement. Il fait l'objet d'un livre. Je vous présente bien sûr mes invités dans un instant. Héloïse Rambert, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui à la une de la science, de quoi allons-nous parler ?
On va parler de l'ampleur qu'est en train de prendre l'épuisement professionnel chez les médecins et on va essayer de comprendre pourquoi on en est là.
Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Irène Menahem avec Lucie Sarfati.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue nos invités cet après-midi, Flore Vasseur, Mehdi Moussaïd, Jean-François Courant et Sophie Bécherel. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Et bienvenue. Mehdi Moussaïd, vous êtes chercheur en sciences cognitives et vous publiez Fouloscopie aux éditions Humaines Sciences. Il s'agit de vos recherches sur la foule. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir exactement sur la foule ?
Oh, beaucoup de choses. Oui. On cherche à savoir comment elle se comporte, comment elle pense et comment éventuellement on pourrait la rendre intelligente.
C'est un organisme vivant quasiment, une foule ?
C'est presque un organisme vivant.
Ouais. En tout cas, ça intéresse beaucoup de scientifiques dans des disciplines très différentes et c'est ce qu'on va voir avec vous dans un instant. Sophie Bécherel, votre coup de cœur cette semaine s'il vous plaît.
Pour Coléoptère, insecte extraordinaire au musée des Confluences à Lyon, vous l'avez dit, une exposition qu'a préparé Jean-François Courant qui est donc avec nous et les chefs de projet dans ce musée. Cette exposition, elle est très transdisciplinaire. On y apprend énormément de choses.
C'est ça, exactement. On a vraiment cherché à être le plus exhaustif possible sur une discipline, enfin, de mélanger les disciplines pour traiter du sujet coléoptère dans son ensemble.
Voilà, coléoptère insecte extraordinaire. Donc, c'est le titre de cette expo à voir à Lyon en ce moment. Et puis enfin, Flore Vasseur, vous êtes auteure et réalisatrice. Et vous publiez donc ce livre qui est une enquête, ce qu'il reste de nos rêves, aux éditions Équateur, dans lequel vous retracez donc la vie d'Aaron Swartz. On a tous regardé sur Google exactement pour savoir de qui il s'agit. Et pourtant, c'est une figure très importante de l'Internet, un jeune homme mort à l'âge de 26 ans en 2013. Qui est-il pour qu'il vous ait donné envie de lui consacrer un livre ?
Je crois que c'est le meilleur d'entre nous, j'ai envie de dire, le meilleur activiste qu'est l'Internet ait eu un jour. Il nous manque beaucoup en ce moment, quand la foule, effectivement, et les mouvements de foule sont en train de s'organiser et que la vraie question est effectivement de la rendre intelligente ou de la rendre puissante et œuvrant pour l'intérêt général. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé là-dessus et qui a codé cette possibilité là. Malheureusement, il a fait l'objet d'une persécution qui est ce qui m'intéresse en fait. Pourquoi aujourd'hui, aux États-Unis, ce grand pays soi-disant des libertés, on attaque les gens libres, intelligents et désintéressés ? Pourquoi ces gens-là sont-ils dangereux aujourd'hui ?
Eh bien, on va en parler avec vous. Ce sera l'objet de ce sujet dans quelques minutes avec également les messages des auditeurs qui peuvent nous rejoindre dès maintenant sur le site de La Tête au Carré.
On va pas attendre Alison, hein, elle est encore en retard.
Elle est pas en retard, elle viendra pas. Elle me l'a dit hier soir.
Attends, tu veux dire qu'on est plus que deux pour tout le service ? Tu pouvais pas le dire avant ?
Mais tu vas te calmer, j'y suis pour rien, moi.
Non, mais à deux, on va pas s'en sortir.
Écoutez, moi je sors d'une garde très difficile. On a une longue journée devant nous, il faut la rassurer, donc si vous voulez bien, on en reparlera plus tard.
Voilà, c'est un extrait de la série Hippocrate diffusée sur Canal+, et qui raconte le quotidien de jeunes internes en médecine, un quotidien souvent difficile, Héloïse Rambert.
Oui Mathieu, je crois qu'on peut dire qu'ils ont l'air un peu au bout du rouleau, ouais. Ces internes dans l'extrait. Alors on savait déjà que les professionnels de santé étaient plus touchés que d'autres par ce qu'on appelle le burn-out, ou le syndrome d'épuisement professionnel. Mais une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of Affective Disorders met pour la première fois des chiffres précis sur ce mal qui ronge les médecins, et ils sont très inquiétants. Alors les chercheurs ont compilé 37 études sur le sujet, incluant 15 000 médecins français, et ils nous apprennent que presque un médecin sur deux, 49% précisément, souffre d'au moins un symptôme caractérisant le burn-out. Et ce chiffre grimpe même au-delà dans certaines spécialités pour atteindre 57% chez les urgentistes. Nous sommes en duplex avec Marseille, avec le docteur Guillaume Font, un des auteurs de l'étude. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital La Conception et enseignant-chercheur à la Timone à Marseille. Alors, un médecin sur deux, ça paraît énorme. C'est un chiffre que vous pensiez trouver en vous attelant à ce travail ?
Non, on s'attendait pas du tout à des chiffres aussi importants. On avait des études précédentes qui signalaient une prévalence du burn-out qui était importante chez les médecins, mais on a trouvé un chiffre considérable, donc 1 sur 2 en burn-out, 1 sur 20 en burn-out sévère, et ce sont des chiffres qui sont similaires, par exemple, à ceux des États-Unis où les médecins sont soumis à d'autres contraintes que n'ont pas les médecins français. Donc on s'attendait pas du tout à des chiffres aussi élevés.
Vous savez que les médecins aux États-Unis, ils peuvent avoir des armes à feu contre eux, c'est des conditions encore plus difficiles que nous.
Exactement, la violence est plus importante aux États-Unis. Effectivement, les armes à feu, les violences aussi impliquent souvent des poursuites judiciaires. Les patients sont plus procéduriers aux États-Unis, les assurances coûtent plus cher. Et donc, on s'attendait à ce que le système français soit plus protecteur et que les médecins français soient mieux protégés sur le plan du burn-out.
Alors, quand vous parlez de burn-out, de quoi vous parlez exactement? Quels sont les critères que vous avez retenus pour voir comment allait le corps médical?
Alors, il y a une définition très précise du burn-out, c'est la présence de trois signes qui sont d'une part l'épuisement émotionnel, donc c'est le fait de commencer à devenir irritable, de commencer à crier pour un oui ou pour un non, la perte de l'accomplissement personnel, c'est-à-dire le sens que l'on donne à ce que l'on fait, et la déshumanisation du soin, c'est-à-dire commencer à traiter des cas plutôt que des patients, donc c'est la perte de l'empathie.
Alors, un médecin sur deux, c'est en règle générale. Est-ce qu'il y a des spécialités plus touchées par le burn-out?
Alors, ce qu'on a trouvé dans cette étude, c'est que c'était les urgentistes qui étaient les plus touchés. Mmh. Ça, on s'y attendait parce qu'on avait déjà des indicateurs dans des études précédentes, parce que les urgentistes sont plus exposés à la population générale. Hein, donc, n'importe quel patient peut aller aux urgences directement. Il peut y avoir des abus de consultation. Donc, c'est l'engorgement des urgences qui est bien connu. Et puis, les urgentistes ont à gérer l'imprévu, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir à la fois des gardes plutôt calme ou au contraire un engorgement très important, ce qui conduit donc à un stress très très difficile. Et puis il faut préciser aussi que les urgentistes ont des alternances de garde de jour et de garde de nuit, comme on l'a vu dans l'extrait d'Hippocrate. Et ce rythme coupé est un facteur de risque d'épuisement très important.
Et alors Guillaume Faure, justement les causes de ce burn-out généralisé, là vous les avez bien identifiées aussi pour l'étude?
Donc il y a les causes que je viens de citer, donc qui sont vraiment à cibler en priorité. On s'attendait à trouver aussi des taux de burn-out plus importants chez les chirurgiens et les anesthésistes, mais ça n'a pas été confirmé par l'étude. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de burn-out dans les autres spécialités, hein. Ça veut juste dire que les urgentistes sont encore plus à risque. On a dit c'est 57% pour les urgentistes versus 49% pour la moyenne des médecins. Il faut préciser aussi que toutes les spécialités n'ont pas été explorées parce que la psychiatrie n'apparaissait pas dans les études, alors que nous avons publié l'année dernière une étude sur les internes en psychiatrie qui étaient plus en souffrance que les autres internes de médecine. Et d'une façon générale, il faut vraiment se pencher sur l'organisation de l'hôpital. On a vu dans l'actualité notre président qui parlait de l'école et de l'hôpital comme priorité pour notre société. Effectivement, il est très important de rappeler que la pénurie de médecins à l'hôpital engendre aussi de l'épuisement professionnel et donc altère la qualité du soin qui est délivré aux patients.
Alors, est-ce qu'il y a des solutions? On est un peu dans une impasse sur cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien des gens qui nous soignent?
Alors, d'une part, il y a l'amélioration de l'effectif à l'hôpital, c'est-à-dire donc des médecins, des infirmiers en nombre suffisant pour assurer notamment les tours de garde, hein, parce que là, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a énormément de gardes par médecin, parce qu'il y a un manque de médecins, aussi une hémorragie de l'hôpital. Les médecins partent de plus en plus s'installer parce que justement, les conditions d'exercice dans le service public sont de plus en plus difficiles. Donc ça, ce sont des mesures politiques. Et puis, au niveau de l'individu, c'est-à-dire au niveau du médecin, je suis en train de mettre en place, de développer à l'Université de Marseille une formation pour proposer, en complément dans les études médicales, on apprend le savoir, on apprend le savoir-faire, mais on n'apprend pas le savoir-être. Et ça, c'est très important. Donc, savoir comment communiquer de façon non-violente, comment recevoir l'agressivité et la réguler sans être impacté à titre personnel, savoir identifier ses propres valeurs dans son travail et comprendre quand est-ce qu'on est en accord avec ses valeurs ou qu'on n'est plus en accord avec ses valeurs et mettre en place des actions précises sans dériver dans le burn-out qui va conduire ensuite à l'anxiété, la dépression et les addictions par exemple.
Et on imagine comme ça que les médecins, c'est pas les premiers à aller demander de l'aide bizarrement, c'est un peu des cordonniers mal chaussés, non ?
Exactement, les médecins ont beaucoup de difficultés, alors déjà à s'auto-diagnostiquer, ça c'est normal, hein, c'est-à-dire que on est toujours meilleur pour voir le problème du voisin que chez soi. Et puis il y a aussi une espèce de culpabilité à dire j'ai des difficultés dans mon métier alors que les autres s'en sortent et moi je n'y arrive pas, je commence à m'épuiser. Il faut rappeler aussi que les médecins sont des êtres humains, donc ils ont leur propre vie à gérer, et donc gérer une vie personnelle avec une vie professionnelle qui est extrêmement prenante. Je rappelle que la plupart des médecins travaillent plus de 70 heures par semaine, donc ça, ce sont des choses très compliquées pour un être humain, et on demande de plus en plus de qualité au médecin. On lui demande d'être toujours souriant, empathique, d'être bon, performant technicien dans une médecine de plus en plus compliquée. On lui demande de savoir parler anglais, de pouvoir faire des collaborations internationales, ça devient de plus en plus dur.
Merci beaucoup Guillaume Faux. Donc il faut soigner les soignants maintenant, finalement. Merci en tout cas, et étude à découvrir, publiée donc cette semaine. Merci à vous, Héloïse Rambert. À lundi, alors
à lundi,
bon week-end
bon
Héloïse. Le club donc dans un instant. Super chérie, c'était la voix de M.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Alors, au menu de l'émission cet après-midi, la science de la foule, une exposition sur les coléoptères à voir à Lyon, et puis la vie exaltée et tragique d'Aaron Swartz, génie de l'Internet, et vous nous rejoignez donc avec vos questions et vos messages sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Mehdi Moussaïd, on commence avec vous, vous arrivez de Berlin, vous êtes chercheur en sciences cognitives à l'Institut Max Planck, et depuis donc maintenant plus de 10 ans, c'est ça, vous étudiez le comportement des foules, et c'est l'occasion de publier Fouloscopie aux éditions Humaine Science. Qui vous a donné l'idée d'ailleurs de ce terme fouloscopie?
Alors c'est une longue histoire, mais en réalité le mot fouloscopie est un clin d'œil à une bande dessinée de Marion Montaigne, qui est une illustratrice et vulgarisatrice scientifique.
On la reçoit souvent ici à ce micro.
Ah, exactement. Ouais. Et donc elle a signé une série d'œuvres qui s'appelle Tu mourras moins bête, dans laquelle on peut trouver une section sur le comportement des foules qui s'appelle Le jeudi c'est fouloscopie. Et puis à partir de ce jour-là, je lui ai emprunté son mot, je l'ai contacté et puis t'es tout à fait d'accord de le partager avec moi.
Donc la fouloscopie et la foule comme objet de recherche à part entière, hein, on le disait tout à l'heure. D'ailleurs, on peut parler de différentes formes de foule parce qu'il y a des choses très protéiformes qui existent.
Oui, absolument. Alors, la première chose qui passe par la tête, c'est la foule en déplacement, quoi. Donc, c'est effectivement un des axes de recherche, c'est le déplacement collectif. Donc, comment se déplacent les piétons dans la rue, ou comment on peut gérer les bousculades ou les mouvements de foule pendant les grands rassemblements.
Mmh. On parlait des marathoniens il n'y a pas très longtemps à ce micro à l'occasion d'une publication là, qui est
absolument,
sortie.
Absolument, de mes deux confrères, Denis Bartolo et Nicolas Bain.
Ouais.
Et donc, ça, c'est une forme, effectivement, le déplacement collectif. Mais on parle aussi de foule pour cibler, par exemple, les internautes qui échangent des informations et qui interagissent sur les réseaux sociaux.
Bien sûr, on les étudie aussi de cette façon-là.
Et puis les deux systèmes appartiennent à la même famille et puis peuvent s'étudier de la même façon avec les mêmes modèles.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à savoir exactement en étudiant les foules? Parce qu'il y a plein de questions, vous le disiez aussi tout à l'heure, hein, qui se posent.
Ouais. Ben, ça dépend beaucoup de l'axe de recherche qu'on prend. Donc, pour le déplacement collectif, par exemple, donc si on considère des piétons qui sont en train de se déplacer, on va chercher à savoir comment on pourrait adapter les villes et les bâtiments publics pour améliorer le confort de marche, par exemple. Ou l'efficacité du trafic piétonnier. Dans le cas des grands rassemblements, on va essayer de voir comment on pourrait gérer la foule pour minimiser les risques d'accidents. Vous savez, donc les bousculades et les mouvements de foule qui peuvent faire énormément de victimes, en particulier dans les très grands rassemblements comme le pèlerinage de la Mecque, par exemple, qui est un endroit qui est très étudié.
Oui.
Sur Internet ou pour la circulation des informations, on va essayer de voir comment on pourrait identifier une fake news, par exemple, ou comment on pourrait réguler la circulation de fausses informations, ou peut-être anticiper les mouvements sociaux.
Ouais. Alors, ce qui fait qu'il y a plein de disciplines qui travaillent vraiment sur la foule, et à Max Planck, par exemple, à Berlin, où vous êtes, il y a quasiment un étage entier, c'est ça, de différents chercheurs qui bossent sur ce sujet-là.
Alors, pas sur la foule en particulier, qui vont bosser sur le comportement humain et les prises de décision en général, mais effectivement, la question de la disciplinarité du sujet, elle est très riche. C'est une question que j'ai commencé à me poser à la fin de mon doctorat. Vous savez, à la fin, quand on remet sa thèse, on doit dire à quelle discipline elle se rattache. Alors en général, ça pose pas de problème, quoi. Les gens savent s'ils font de la physique ou de la chimie. Mais quand on étudie les foules, c'est pas évident, vraiment. Ouais. Ça peut être de la biologie, parce que les déplacements des foules se ressemblent beaucoup à ceux des bancs de poissons ou des troupeaux de moutons. Effectivement, il y a des analogies importantes.
Et ça vous l'étudiez d'ailleurs, hein?
Ah, oui, absolument. Ouais. Oui. Mes premiers collègues étaient biologistes et éthologues en particulier. Ça peut être de la physique aussi, donc vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais on peut décrire le déplacement d'une foule à l'aide d'équations qui sont traditionnellement utilisées pour décrire la physique des grains de sable ou l'écoulement d'une rivière.
C'est bien.
Et puis évidemment, ça peut être de la psychologie, parce qu'après tout, les foules, c'est des gens, c'est pas des grains de sable ou des poissons. Et parmi les premières personnes qui ont étudié les foules, il y avait Gustave Le Bon au 19e siècle, qui est le père de la psychologie sociale.
Ouais, c'est vrai.
Donc il y a plein de disciplines qui se mélangent, et je vous ai pas parlé de la sociologie, de l'informatique ou autre.
Et on peut prendre aussi la foule comme quasiment un cerveau, hein. C'est-à-dire que c'est une intelligence collective aussi, la foule, hein. Parfois, pas toujours, mais...
Oui, absolument. Et ça, c'est un nouvel axe de recherche qui est apparu un peu plus tard, disons au début des années 2000, où on a commencé à comprendre qu'effectivement la foule était capable d'intelligence collective. Et c'est une des lignes de recherche les plus excitantes à mon goût, de savoir dans quelles conditions la foule va montrer des comportements intelligents, et puis dans quelles conditions elle va être plutôt stupide. Mmh. Et est-ce qu'on pourrait intervenir sur le système pour la conduire à être intelligente?
Sophie Bécherel.
J'allais vous demander dans quelle mesure l'étude des comportements des animaux grégaires a une influence sur les comportements humains, mais vous avez cité, on n'est pas des poissons, donc ça veut dire que pour vous, une foule animale n'a pas d'intelligence, ou pas aussi développée qu'un groupe humain?
Si, absolument. Tous les systèmes sont parfaitement comparables, ils appartiennent tous à la même famille. Donc j'ai commencé à étudier les foules dans les mêmes bureaux que des gens qui étudiaient les bancs de poissons ou les colonies de fourmis, qui sont les colonies de fourmis en particulier, qui sont l'exemple ultime de forme d'intelligence collective, quoi.
Ouais.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait des points communs, énormément de points. Il y a aussi des différences, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement quels sont les points communs et les différences. Ouais.
Et Jean-François Courant, est-ce qu'il y a des intelligences collectives chez les coléoptères ou pas? Il n'y a pas de foule de coléoptères, hein,
Les coléoptères sont plutôt individuels. Ouais, c'est pas des insectes sociaux comme on l'entendrait plus avec les hyménoptères, donc que vous avez cité, par exemple les fourmis ou les abeilles ou les guêpes, qui sont pas tous d'ailleurs sociaux, mais voilà. Mais j'avais vu, je crois qu'on fait aussi des modèles prédictifs à partir de l'étude des comportements des fourmis avec les renforcements de pistes par olfaction, c'est ça?
Oui, absolument, juste pour le faire rapidement. Donc les fourmis communiquent entre elles à l'aide de phéromones, qui est un petit composant chimique qu'elles vont laisser sur le sol pour indiquer à leurs congénères qu'elles ont découvert, par exemple, une source de nourriture. Et cette trace qu'elles laissent dans l'environnement est le moteur de d'un comportement d'imitation qui va attirer la colonie dans une certaine direction. Eh bien, les piétons, quand ils se déplacent, par exemple, dans un parc ou sur une étendue enneigée, vont laisser derrière eux des empreintes de pas. Et ces empreintes de pas ont un fort caractère attractif par rapport aux autres piétons qui vont suivre la piste et la renforcer. Oui. Et ça va créer des réseaux de pistes, par exemple, dans les campus universitaires. Vous avez déjà vu ces réseaux en terre qui traversent les parcs. Et il y a des chercheurs qui ont étudié la structure de ces réseaux de pistes. Et il se trouve qu'en plus, ils ont un caractère optimal. Savoir qu'ils vont connecter les points les plus chauds en plus court chemin.
Ça, c'est l'intelligence collective. Alors,
c'est un exemple parfait.
Une belle illustration. Ouais. Oui, Fleur Vasseur.
Oui, alors justement, en parlant d'intelligence collective, Internet s'est vraiment bâti sur l'idée qu'il y avait une sagesse des foules. Il y avait une intelligence collective qui allait émerger de cette mise en réseau des cerveaux des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Comment vous expliquez
ça? Est-ce que ça s'est confirmé?
Oui,
ouais, absolument. Bah, il y a énormément d'exemples et qui vont un peu dans les deux sens, qui vont dans le sens de l'intelligence collective et aussi dans le sens de quelque chose de moins intelligent. Je pourrais vous citer par exemple Wikipédia, qui est l'emblème de l'intelligence collective.
On va en parler avec Aaron Swartz tout à l'heure, justement.
Wikipédia, c'est, faut vous rendre compte, on estime qu'il y a environ 27 millions de personnes qui ont contribué à construire cette encyclopédie, donc ce qui en fait probablement un des projets collaboratifs les plus importants que l'humanité ait jamais entrepris. Et en termes de fiabilité, les études montrent que c'est à peu près ni pire ni meilleur que les encyclopédies traditionnelles comme Britannica Universalis.
Ouais. On va écouter justement un extrait d'un document d'actualité. C'était en 2015, juste après les attentats. Et ce mouvement de foule à Paris, hein, on s'en souvient très très bien, ça a beaucoup marqué en tout cas ceux qui étaient à Paris. On écoute l'extrait de cet archive, c'était sur CNews.
Devant le bar Le Carillon, vers 18h30 hier, ils ont bravé l'interdiction de se réunir pour rendre hommage aux victimes des attentats. Quand tout à coup, la foule est prise d'un mouvement de panique. Les bougies et les fleurs sont piétinées. À quelques centaines de mètres de là, place de la République, même mouvement de foule. Des milliers de personnes se précipitent, courent, tombent à terre, se mettent à l'abri dans des cafés. Des commerçants ferment même leurs rideaux de fer. L'incompréhension, puis quelques minutes plus tard, fausse alerte. Il s'agissait en fait de pétards et de l'éclatement d'une ampoule ou d'un chauffage de terrasse. Les mouvements de foule dangereux ont mobilisé les forces de l'ordre. Un hélicoptère a survolé la zone. Des pompiers ont dû intervenir pour éteindre les fleurs qui avaient pris feu.
Voilà, Mehdi Moussaïd, évidemment, exemple extrêmement intéressant, passionnant, parce que là, il est dans le cadre d'un événement traumatisant, évidemment, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait un contexte émotionnel aussi qui était tout à fait particulier et qui peut aussi expliquer ce comportement de panique collective, non?
Ouais, absolument. Le contexte est très important dans ce cas-là. D'une manière générale, il faut savoir que la panique collective, c'est quelque chose qui est très rare. Donc, quand on a des mouvements de foule ou des bousculades qui font parfois des centaines, voire des milliers de victimes, il se trouve que les gens ne sont pas en panique. Le mot panique doit être utilisé dans un cas très particulier. C'est quand on a une émotion négative qui va avoir tendance à se propager de proche en proche et à comme ça, comme une traînée de poudre, envahir toute la foule. Mais d'une manière générale, la panique est plutôt rare. Il y a des études qui ont été conduites, par exemple, sur probablement la plus grande évacuation, la plus grandiose en tout cas, qui a eu lieu, c'est celle du 11 septembre.
Ouais.
Donc vous avez
dans
les tours, vous avez 17 000 personnes qui doivent descendre jusqu'à 90 étages sous la menace de l'effondrement imminent. Et tous les témoignages et les études qui ont été conduites montrent que en fait la foule a été très solidaire, qu'elle n'a pas du tout paniqué. Et cette image qui est souvent véhiculée dans les films hollywoodiens des gens qui se bousculent pour être les premiers dehors, elle est en grande partie erronée. C'est une idée reçue. Bon là dans le cas de l'extrait que vous avez montré,
c'est un cas particulier qui fait suite
à un événement traumatisant.
Ouais. Ouais, donc le bruit de ce pétard, hein, c'est ce qui s'est passé en fait, place de la République, aux alentours. Hein, il y a eu un pétard et tout le monde a pris ça pour un coup de feu.
Ça peut être un pétard et ça peut être vraiment n'importe quoi en réalité, parce que ce genre de mouvement de panique qui devient de plus en plus commun depuis 2015, il y a eu récemment un cas à Nice pendant la retransmission d'un match sur le cours Saleya. On peut aussi citer Turin sur la place San Carlo en 2017 pendant un match de football également. Et ça peut être un pétard, ça peut être autre chose. L'idée générale, c'est juste que la foule est hypersensible.
Ouais.
Et dans ce contexte, les gens vont être très sensibles au comportement de leurs voisins.
Ouais.
Et ils vont avoir tendance à s'imiter beaucoup plus souvent.
Mais alors, au-delà de la compréhension justement d'un mouvement de panique dans une foule, est-ce que les chercheurs pourraient trouver des moyens justement d'atténuer cela dans certains cas, mais ce qui paraît quand même très très compliqué, parce que c'est absolument pas prédictif du tout, en réalité. Hein.
Ouais, c'est très difficile. Donc, en fait, le vrai obstacle, le vrai challenge à ce niveau-là, c'est d'avoir des données. Le problème, c'est que ce sont des événements qui sont presque trop ponctuels et puis on peut pas en tirer une analyse scientifique rigoureuse.
Ouais.
Donc on essaie de, par exemple, il est impossible de conduire une expérience par exemple où on aurait des gens qui seraient en situation de panique. Récemment, on est en train de tester la réalité virtuelle pour ça. Donc on a des participants qu'on invite au laboratoire et puis on va les immerger ensemble dans un monde virtuel qui serait sous le contrôle de l'expérimentateur. Et puis là, on a un peu plus de liberté évidemment, donc on peut les mettre par exemple dans un bâtiment, déclencher un incendie et voir comment la foule va répondre à cet incendie. On est un peu plus proche des conditions normales, mais ça reste un petit peu artificiel.
Ouais. Sophie Bécherel.
Dans quelle mesure l'étude des votes, voyez, ou des intentions de vote peut être assimilée à une étude de foule?
Tout à fait. Alors, donc là, on est dans le thème de l'intelligence collective, et puis il y a de nombreuses études qui vont montrer que quand on agrège un grand nombre de jugements ou d'avis indépendants, comme par exemple voter, on peut obtenir un jugement collectif qui est très précis. Le problème principal, ce sont les interactions et les influences sociales. Donc si par exemple vous avez cette fois-ci des gens qui interagissent, comme par exemple en leur montrant un sondage, donc vous allez voir quel est l'avis des autres, ça va avoir une influence sur leur avis propre, et ça va entraver le bon fonctionnement de l'intelligence collective. Donc c'est quelque chose qui est...
Ça va pas renforcer l'effet de foule.
Ça va renforcer un aspect qui est plutôt négatif, quoi.
Alors, on va aller plus loin avec ce sujet, hein, parce qu'il est absolument passionnant, et on va vous retrouver le 6 mars prochain. Vous reviendrez pour une tête au carré intégrale, justement, Mehdi Boussaïd, pour aller beaucoup plus loin. En attendant, on peut déjà lire cet ouvrage qui s'appelle « Fouloscopie, ce que la foule dit de nous », avec des dessins de Wozniak. Oui. Et c'est chez Humaine Science, et donc on prend date. Hein, c'était juste un appetizer, là, cet après-midi, pour pouvoir en savoir plus avec vous. Vous restez avec nous, on parle coléoptère dans un instant, et Aaron Swartz, un jeune génie de l'Internet, justement.
Now they're saying, girl is no good. Always end up misunderstood. What you know about me? It's no lie, I'm alright for ya. They don't know about me. I won't lie, I would die for ya. But she's telling me now, this could be the last time. That's exclusive, so don't fall in love.
C'était Beat Assayant avec Bad Boy.
La tête au carré, le club.
Madame Bécherel, vous avez la parole.
Oui, pour vous parler des coléoptères, cette exposition présentée au musée des Confluences. Alors, bousier, coccinelle ou scarabée, ce sont des coléoptères. Quel est leur point commun, Jean-François Courant? Définissez-nous un coléoptère.
Alors, un coléoptère, c'est bien sûr un insecte. Donc, il possède, comme tous les insectes, une tête, un thorax et un abdomen. Trois paires de pattes, c'est les hexapodes, les fameux insectes. Et la particularité des coléoptères, c'est que, comme tous les insectes, il a deux paires d'ailes, mais il a une des paires d'ailes qui a été modifiée, qui s'est rigidifiée au cours de l'évolution, et qu'on va appeler élytre, et qui va protéger l'aile membraneuse. Et ça vient de là, en fait, le terme coléoptère, ça vient de coléos, donc étui, fourreau, et ptère, ou pteron, qui est aile ou ailée. Donc c'est les ailes dans les fourreaux.
Alors, pour quelle raison vous vous êtes intéressé à cette espèce, parfois très esthétique? Est-ce que c'est parce que vous avez une très grande collection au Musée des Confluences?
Alors, bien sûr, au Musée des Confluences, on a énormément de spécimens. On a plus de 2 millions d'insectes qui sont dans nos réserves, dont une grosse partie de coléoptères, bien sûr. On s'est intéressé à cette thématique sur les coléoptères qui peut paraître un peu étonnante. Pourquoi s'intéresser juste à cet ordre d'insectes particulier et pas à l'ensemble des insectes? C'est parce qu'en fait, cette thématique-là, coléoptère, qu'on restreint, elle est suffisamment en fait large et suffisamment vaste pour en faire une exposition. On va aborder, bien sûr, l'aspect sciences naturelles, ce qu'est un coléoptère, depuis combien de temps ils sont présents sur Terre, de quoi ils sont capables. Il y en a certains qui sont vraiment capables de réelles prouesses, en termes de dimension, en termes de force, en termes de vélocité. Enfin, il y a énormément de choses. Mais aussi, ils sont présents sur tous les continents du globe, sauf l'Antarctique. Ouf, on n'a pas de traces, en tout cas, de leur présence. Et depuis plus de 250 millions d'années. Donc en fait,
ils dominent le monde, quoi. C'est ce qu'on dit, hein, quasiment, sur les coléoptères.
Une espèce animale sur quatre, connue à ce jour, est un coléoptère. Ouais. C'est juste monstrueux en termes de représentativité. C'est 387 000 espèces connues, et on continue d'en découvrir tous les jours. Et c'est surtout des espèces qui sont, comme je vous disais tout à l'heure, présentes sur toute la planète, sauf dans les mers et les océans. Mmh. Et en fait, l'homme, toutes les civilisations vont côtoyer de façon assez régulière, assez quotidienne, assez systématique, ces coléoptères, et vont en fait tisser des relations qui sont toujours dans une dualité entre la fascination, entre l'attraction, parce que justement ils vont être étonnants, ils vont avoir des formes, des couleurs, délivrer des capacités surprenantes, et de l'autre côté, ça reste des insectes. Et par exemple, en Occident, on a quelques réticences à avoir des insectes, hormis la fameuse coccinelle, bien sûr, qui est toujours un très bon symbole et qui est très positive. Mais on va avoir tendance à se distancier, à trouver ça sale, répugnant, et ainsi de suite. Donc on est toujours un peu dans cette dualité-là. Mmh. Et certaines cultures vont complètement, non européennes, non occidentales, vont complètement s'emparer de la thématique des coléoptères et de certaines espèces pour en faire carrément des dieux. En Égypte, on a le dieu Khepri, si je le prononce correctement.
Le dieu Khepri.
J'essaie de le prononcer correctement, mais je suis pas suffisamment bon en égyptien ancien, qui est un dieu à tête de scarabée, qui est responsable de la renaissance de l'astre solaire et de son déplacement dans le ciel. Et ça, c'est typiquement, les Égyptiens ont donné ces capacités-là à ce dieu-là en regardant le comportement du scarabée bousier. Vous parliez tout à l'heure de coprophage. Oui. Donc c'est un scarabée qui va, à partir d'une bouse de vache, créer une sphère et la déplacer.
Il roule sa petite boule.
Exactement, ce qu'on appelle une pilule. Alors c'est un peu plus
scientifique
que boule de crotte, mais ça, en fait, ils vont de quelque chose qui est relativement plan, horizontal, il va créer une sphère, et il va la déplacer dans le ciel. Et en voyant ce comportement-là, les Égyptiens anciens l'ont déduit et ont donné à ce dieu scarabée cette
capacité. C'était une des images marquantes de Microcosmos, qui était sorti au cinéma il y a quelques années. On voyait se bousiller, rouler sa petite boule.
Dans ces relations animal-homme dont vous parliez avec les Égyptiens, il y a aussi les Africains, pour qui les coléoptères sont associés parfois au mauvais sort, parfois à la chance. Enfin, il y a des choses très fortes qui sont montrées dans l'exposition.
Voilà, dans quelques populations, dans quelques régions d'Afrique, par exemple au Mali, on va avoir, dans le grand groupe des coléoptères, on va avoir les cétoines, qui est un petit groupe. Et en fonction de l'espèce que vous allez rencontrer, on va lui associer, dans certaines cultures, un aspect soit positif. C'est-à-dire que si vous croisez telle espèce sur le pas de votre porte, ou si vous le croisez en chemin, telle espèce, ça va être l'annonce d'une prochaine arrivée d'un de vos voisins, ou de quelque chose de relativement positif. À l'inverse, si vous êtes heurté par une petite cétoine, qui est entièrement noire cette fois-ci, donc on verra aussi que la couleur a son importance. Si vous êtes heurté, c'est-à-dire qu'elle est en vol, elle vient vous frapper, c'est qu'on vous a acheté un mauvais sort et qu'il faut vite aller vous faire exorciser, sinon vous allez développer un mal incurable et finir par mourir.
Donc voilà, on est toujours sur cette dualité. Chez les Mayas, on porte les coléoptères vivants en broche.
Voilà, donc c'est...
Ça vous plairait, Sophie, je suis sûr.
C'est un peu particulier.
C'est particulier et original.
C'est une pratique qui a toujours cours, qui date en fait des Mayas. En fait, alors pour la petite histoire, c'est une princesse maya qui tombe amoureuse d'un guerrier de sa propre tribu. Malheureusement, son père, le roi, l'avait promise à un prince d'une contrée voisine, un mariage de raison. Donc quand son père, le roi, découvre l'idylle entre sa fille, la princesse, et un guerrier de sa propre tribu. Il prend les devants, il décide d'exécuter directement le guerrier, donc l'amant de la princesse. La princesse le supplie d'épargner son bien-aimé. Il accepte, sous la seule et unique condition qu'elle ne le voit plus jamais. Et donc le guerrier est gracié, la princesse et lui ne se revoient plus, mais la princesse était pleurée et elle pleure tous les soirs. Et un chaman qui passe par ici la prend en pitié, entend ses pleurs, entend ses sanglots, et va décider de l'aider. Et il va transformer le guerrier en coléoptère, en une espèce bien particulière, qu'elle va s'empresser de récupérer, qui va le faire orner de bijoux par les meilleurs joailliers de la contrée, et qui va le porter le reste de sa vie près de son cœur. Voilà.
C'est une jolie histoire.
Magnifique, extraordinaire. On a des questions des auditeurs d'ailleurs, tiens, sur les coléoptères. Il y a Jean-Paul qui demande si les coléoptères ne voient qu'en noir et blanc.
Alors c'est très compliqué de connaître la façon dont les animaux perçoivent les couleurs ou les environnements. Je veux pas m'avancer. Il y a certains coléoptères qui sont complètement aveugles parce que, par exemple, ils vont être fouisseurs, ils vont vivre entièrement sous terre durant toute leur vie. Ou d'autres qui vont être aquatiques, je pourrais pas m'avancer en termes de capacité.
Mehdi Boussaïd, vous avez une question à poser.
Je me demandais juste si les coléoptères étaient des insectes sociaux et s'ils étaient capables de comportements collectifs.
Alors, on va pas pouvoir dire que ce sont des insectes sociaux. Par contre, ils vont être capables de comportements collectifs. On va avoir, par exemple, des cas assez rares. On va avoir une pullulation parfois de certaines espèces. Par exemple, des coccinelles. Donc là, je vous parlais tout à l'heure de symboles positifs. Par moment, il peut y avoir vraiment une réelle pullulation de coccinelles qui vont se mettre à venir toutes se poser sur vous. Vous avez une centaine de coccinelles et elles vont venir en fait vous gratter et finir par vous irriter la peau. Donc là, c'est un comportement d'agrégat, mais qui n'est pas du tout un comportement social. C'est une attraction due à une substance ou due à des éléments comme ça.
C'est une exposition qui est très peu éclairée. Et en fait, c'est certes un choix scénographique, mais il y a une raison. En fait, ces animaux sont assez fragiles pour certains.
On est obligé, en fait, ce sont des pièces de musée. On présente aussi des pièces relativement rares avec des types, donc des spécimens qui servent à décrire une espèce. Donc c'est plutôt rare de présenter ce genre de choses dans un musée. Sinon, ça reste la plupart du temps dans les réserves. C'est uniquement les scientifiques qui ont accès. Mais voilà, pour des raisons de conservation de ces pièces-là, on est obligé de peu les éclairer.
Sinon, elles perdent leur couleur. C'est le cas.
Typiquement pour la coccinelle, la couleur de la carapace de la coccinelle, ce fameux rouge, enfin, pour les plus connus, est une couleur chimique. C'est-à-dire que vous avez des pigments qui sont détruits dès la mort de la coccinelle et qui sont encore plus détruits par la lumière.
Donc, vous avez des spécimens vivants pour l'exposition
ou
pas du tout?
Non, on a failli en avoir. Mais c'était trop compliqué, en fait. On est sur une exposition qui dure 18 mois. Et les coléoptères ont des modes de vie, enfin des durées de vie, pardon, relativement courtes. Oui. On voulait justement présenter des coléoptères vivants pour traiter d'un aspect qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est au Japon, dans la culture japonaise, il est très fréquent d'avoir des coléoptères en tant qu'animaux de compagnie. Au même titre qu'un hamster, qu'un poisson rouge, qu'une tortue en Europe.
Et on peut
acheter
des kits.
Et voilà, vous avez des magasins spécialisés, des animaleries qu'on appelle des mushi shops, et qui sont spécialisés exclusivement dans la vente de coléoptères.
Ah, ça, alors.
Vous pouvez choisir votre espèce, un mâle, une femelle, vous pouvez choisir votre larve et donc le faire...
L'élever
complètement et arriver à passer les différents stades. Et donc, pour illustrer cette thématique-là, on voulait bien sûr présenter un élevage de coléoptères. Malheureusement, c'était un petit peu trop compliqué pour pouvoir présenter pendant 18 mois des espèces, des animaux vivants, pardon, puisque les cycles de vie sont relativement courts, 2-3 mois. Une fois qu'ils sont au stade adulte et que la forme larvaire est la plupart du temps souterraine, donc c'est extrêmement compliqué de montrer ça, donc on a pris le parti de ne pas le faire.
L'exposition se termine sur des œuvres d'art, notamment un tableau de Bruegel l'Ancien où il y a un petit jeu où il faut trouver les coléoptères cachés. Pour quelle raison au XVIIe siècle on mettait des coléoptères dans les bouquets de fleurs ou dans les natures mortes?
Voilà, alors il faut savoir que les natures mortes sont en fait des agrégats d'énormément de symboles, d'énormément de croyances, ce sont des messages, on va dire, voilà. Tous les objets, toutes les fleurs, toutes les représentations, tout ce qui va être représenté dans une nature morte, enfin à l'époque en tout cas, est porteur de symboles. Vous allez, si vous avez un œillet, ça dit quelque chose, et très souvent lié à la religion. L'œillet était surnommé le petit clou, et c'est en référence directe à la crucifixion du Christ. Si vous avez des animaux présents, la plupart du temps ce sont les insectes qui sont présents, c'est le côté vanité, le côté éphémère de la vie. C'est pour vous montrer qu'en fait, on va tous finir à un moment ou à un autre par être mangés par les insectes. Et vous avez dans ce cas-là aussi quelques coléoptères qui ont des symbolismes spécifiques. Le lucane cerf-volant qui est caché dans l'interactif, vous avez peut-être dû le trouver, qui est un gros animal avec des grosses mandibules noires et qui était le symbole qu'on pensait être un symbole du mal, du démon avec les cornes. Justement, ces mandibules-là étaient associées à des cornes du diable. Et si vous regardez la composition du tableau, puisque encore une fois on est sur ça, on a une coccinelle juste en face, donc le symbole cette fois-ci de la Vierge Marie, puisque c'est un symbole extrêmement fort.
Donc on va à Lyon, Sophie,
voilà, une
comme
exposition
vous.
Très riche, qui n'est pas très grande, mais très très riche. Beaucoup de choses à
Insectes
y apprendre.
Insectes extraordinaires, c'est au Musée des Confluences, et on a jusqu'au 28 juin 2020.
Ah oui, bah
on a du temps, effectivement. Allez, dans un instant, on parle d'Aaron Swartz, génie de l'Internet.
Suis-moi, et si je suis pas, suis-moi, là où niche les bouts. Suis-moi, on y est presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi, et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose, plus de questions et qu'on ose. C'est si bon quand on s'perd, sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. C'est si bon quand on s'perd, d'être si bon ici bas.
Suis-moi, c'était la voix de Camille.
La mort d'Aaron Swartz a été un des événements les plus commentés sur les réseaux sociaux ce week-end. Aaron Swartz s'est suicidé, il avait 26 ans, il avait contribué à la création du format RSS, la technologie qui permet de suivre cette chronique ou bien n'importe quelle émission de France Inter en s'abonnant à un flux. Militant pour la liberté absolue sur la toile, il avait été inculpé par la justice américaine en 2011, soupçonné d'avoir piraté des millions de pages d'archives du prestigieux Massachusetts Institute of Technology.
Le Club, sur France Inter.
Flore, ma sœur qui dit non, c'est pas ça.
Non, mais c'est pas ça.
C'est quoi l'erreur?
C'est des raccourcis. Bah, c'est pas des archives. Justement, tout le problème est qu'il a téléchargé sur des réseaux en accès libre du MIT, qui, vous savez, qui est cette très grande université américaine, chantre de la science et de la culture du hack.
Ouais.
Il avait téléchargé des publications scientifiques protégées par le droit d'auteur. Mais il les a pas distribués, il en a rien fait. Mais le geste lui-même lui a valu une persécution digne de Kafka, sauf que c'est l'Amérique d'aujourd'hui.
Ouais, alors on va remettre les choses dans leur contexte. Hein, pour ceux qui nous rejoignent un instant, vous êtes donc auteur de ce livre « Ce qu'il reste de nos rêves » publié aux éditions des Équateurs. Il s'agit donc d'un portrait d'Aaron Swartz, surnommé le Robin des Bois du net, hein, mort à 26 ans. Il s'agit d'une enquête, hein, c'est vraiment ça que vous avez mené, en tant qu'activiste d'ailleurs vous-même, parce que c'est ce que vous nous disiez finalement tout à l'heure. Nous, les activistes.
Je crois que je dérive.
Ouais.
À force de fréquenter ce genre de personnes, finalement, ils me contaminent, ils déteignent sur moi. Et oui, je crois
c'est
que je suis
foules,
en train de filer un très bon coton.
Ouais. Alors, suicide ou suicider, d'ailleurs, c'est vraiment le titre de la première partie. Pourquoi vous commencez par ça, précisément, Flore
Vassal? Parce qu'en fait, quand il décède, donc le 11 janvier 2013, je ne le connais pas, je le lis beaucoup sur les réseaux parce que Aaron était quelqu'un qui était vraiment, je dirais, un phare dans la nuit, qui publiait énormément de choses, toujours en accès libre, et qui publiait non pas sur le code ou la science, mais sur la société d'aujourd'hui, sur la démocratie. Il a un itinéraire dingue, il est mort à 26 ans, mais en 26 ans, il est passé du code à la sociologie politique, à l'internet, à la démocratie, à la mobilisation des foules. C'est quelqu'un qui a une trajectoire de comète, en fait, et donc qui était vraiment quelqu'un de très important pour moi intellectuellement. C'était quelqu'un, je me disais, bah tiens, si j'ai envie d'apprendre quelque chose vite, si j'ai envie d'un quick fix, je vais lire le blog d'Aaron et tout de suite je comprends plein de trucs. Et donc quand il est mort, pour le coup j'ai ressenti vraiment quelque chose de physique, alors que je le connaissais pas, de l'ordre de l'effondrement en fait.
Ouais.
Et je me suis dit il se passe quelque chose de vraiment très 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 grave. Et c'est vrai que j'étais en train de finir mon précédent livre qui parlait des phénomènes de collusion et de corruption au plus haut niveau de l'État, qui m'a valu quelques quolibets de complotisme, etc. Et c'est vrai que quand j'ai compris qu'Aaron, qui pour moi était l'un des derniers, enfin j'espère pas dernier, mais esprit libre, désintéressé, qui travaillait dans la gratuité, qui partageait exactement tout ce qu'il faisait et qui était l'un des derniers défenseurs de l'intérêt général, quand je vois qu'il est retrouvé pendu dans sa chambre à Brooklyn, je me dis c'est pas possible. C'est pas possible. On est en pleine affaire Wikileaks. Il y a une opprobre incroyable qui est lancée sur tous ceux qui maîtrisent la technologie mieux que le gouvernement. Et il y a une pression très forte faite à cette époque-là par le gouvernement d'Obama, qu'on est tous censés adorer aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas la vraie histoire. Il y a vraiment une chasse un peu à tous les soutiens potentiels de Wikileaks. Donc les activistes, les codeurs, les programmeurs informatiques, les artistes, etc. Et Aaron est tombé dans ce filet-là, alors que on pourrait dresser la cartographie des liens de Wikileaks. Il n'est pas du tout là-dedans, c'est pas du tout le même personnage. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est brillant, qui est libre et qui maîtrise la technologie mieux que n'importe quel programmeur de la NSA.
Et là, surtout, il a une idée, il a une philosophie de l'Internet.
Et hein. Mais non seulement de l'Internet, mais de ce qu'est la science et la connaissance. Ouais. En fait, c'est ce qui est fou, c'est que c'est quelqu'un qui fait le lien, qui nous explose à la figure aujourd'hui, entre l'accès à la connaissance, le partage et la gratuité de la connaissance, et ce qui arrive à la démocratie aujourd'hui. Il est en train de faire le lien entre le partage des idées et la démocratie et la liberté d'expression. Il le fait il y a 10 ans. Là, nous, ça y est, on découvre. Mais il est très, très, très en avance. Il communique toutes ses idées, il les donne. Moi, je comprends pas, en fait, tout ce qu'il me dit ou tout ce qu'il raconte en 2013. Et c'est ce qui m'a fasciné dans ce livre, c'est de tirer un fil sur un itinéraire, sur une grande tradition intellectuelle, sur ce qu'est la science, sur ce qu'elle devrait être, ce que devrait être le progrès humain, sur ce que devrait être la politique, et de me rendre compte du trésor que représentait cet homme qui est longtemps resté dans un tout petit corps d'enfant, mais qui avait un cerveau de sage.
Ouais. Alors, est-ce que, oui, on sent qu'il y a vraiment une admiration de votre part. Hein.
C'est
quelque chose qui est très poussé. Oui, oui. Non, mais en plus, ça n'est pas que son personnage. C'est-à-dire que c'est aussi tout un mouvement derrière lui, quand même. Hein. C'est-à-dire que lui, c'est une figure, c'est un peu la figure du génie pour caricaturer les choses. Mais quand même, il y a tout un esprit, une philosophie qui est très importante aujourd'hui quand même autour de cette liberté et d'accès à la connaissance.
C'est la liberté de l'accès à la connaissance, mais c'est la liberté tout court en fait. Et c'est là où c'est magique et ça dit beaucoup de notre époque aussi. Et c'est vrai que c'est cette tradition des très grands humanistes, des idéalistes. Vous savez, on dit aux États-Unis ces personnages bigger than life. Il y a que des Américains pour ça qui sacrifient leur vie pour une idée, etc. C'est fantastique. Qui fait ça aujourd'hui? Et donc il est dans cette tradition-là parce qu'il vient de ce pays, parce qu'il a une histoire particulière. C'est un immigré de la troisième génération. Ses grands-parents ont échappé au pogrom. Il était une fois en Amérique au 21e siècle, j'ai envie de dire, avec un grand-père qui est très investi auprès des militants anti-nucléaires. C'est une passion pour la science, c'est une vénération pour ce qu'est le MIT. Alors c'est la folie parce que c'est finalement cette institution qui lui tend la corde en fait.
Ouais.
Mais et donc c'est cette énorme désillusion sur ce qu'est devenu la science, sur ce qu'ont fait des chercheurs aujourd'hui, sur la façon dont eux-mêmes sont corrompus ou pas, mais par l'idée même d'être payé par une institution qui reçoit pour $1 milliard de commandes du Pentagone chaque année. Enfin, il y a cette espèce de compromis permanent avec la réalité de la société d'aujourd'hui et de la politique.
Mehdi Boussaïd. Alors, vous ne connaissiez pas non plus très bien Aaron Swartz.
Non, je connaissais pas. Tout à l'heure, je voulais rebondir juste pour préciser qu'aujourd'hui, pour un chercheur, par exemple, qui voudrait publier ses résultats en accès libre, ça coûte très cher. Ça coûte entre 1000 et 2000 dollars par article qui serait facturé par le journal de publication pour mettre les résultats en accès libre. Donc c'est encore loin d'être gagné.
Oui, alors néanmoins, à sa mort, il y a eu tout un mouvement de la part des scientifiques qui eux-mêmes ont décidé de
mettre
publier
leur publication en accès
gratuitement
libre.
Sur des plateformes. Il y en a plein.
En hommage,
le gouvernement américain, et notamment d'Obama, alors voilà, on n'est pas à une contradiction près, a passé un certain nombre de lois qui force tout chercheur, enfin qui permet à tout chercheur, parce que les scientifiques sont les premières victimes de ce non-partage des résultats, mais qui permet à tout chercheur qui a été financé par une institution publique, il l'autorise à mettre ses recherches en accès libre. C'est quand même la moindre des choses. Ces recherches sont payées par...
Il oblige, c'est devenu une loi.
Oui, mais...
Il oblige au bout d'un an.
Mais il l'oblige, mais avant c'était impossible pour eux de le faire en fait. Donc c'est une espèce de retournement, et même Bill Gates, qui est peut-être au niveau de la technologie à l'exact opposé de ce que peut représenter Aaron dans le cadre de c'est l'anti libre accès. Même Bill Gates avec sa fondation Bill et Melinda Gates force maintenant chacun de ses chercheurs. Vous savez que c'est la plus grande le plus grand donateur de financeurs de recherche scientifique aujourd'hui, il force chacun de ses... Enfin, l'une des conditions pour accepter, pour donner une bourse à un chercheur, c'est qu'il publie ses travaux en accès libre. Donc Aaron, je veux dire, sur ce thématique-là, sa mort a provoqué un sursaut quand même de la communauté scientifique.
On va écouter sa voix à l'occasion d'une interview qui avait été enregistrée en 2006 qui s'appelle Still They Seem. C'est un documentaire et on l'écoute justement s'exprimer sur le sujet de la propriété intellectuelle.
L'ancien système de diffusion était pauvre en fréquence. Avec une antenne de télévision, on captait 10 chaînes. Avec le câble, on en captait 500. Sur Internet, tout le monde peut avoir une chaîne, un blog, une page, et chacun peut s'exprimer. Il n'est donc plus question de savoir qui a accès aux fréquences, mais plutôt de savoir qui a les moyens de capter l'intérêt des gens. Le système de filtrage de Google, par exemple, guide les internautes vers des sources et du contenu. Le droit à la parole n'est donc plus réservé à certains. Maintenant, tout le monde peut parler. Reste à savoir qui sera entendu.
Et là, il a 20 ans. Hein. Donc c'est 2006. Et deux ans plus tard, donc, il va écrire, vous le rappelez, hein, son manifeste de la guérilla pour le libre accès. Alors déjà, le titre, ça fait frémir évidemment toutes les autorités. Hein.
Il a 21 ans. Vous savez, c'est quand même... c'est le drame d'aujourd'hui. On publie quelque chose et des années plus tard, sorti de son contexte, on vous le remet sur la figure. On dit « Ah, vous avez sorti ça un jour, c'est une preuve de préméditation, etc. » Ce qui lui arrive, en fait. Donc, le manifeste de la guérilla pour le libre accès, c'est d'appeler, justement, la communauté scientifique, les étudiants, les chercheurs, les bibliothécaires, parce que ça part d'un mouvement des bibliothécaires, quand même, cette histoire, de dire les universités des pays du Sud n'ont pas les moyens de se payer ces abonnements faramineux à toutes ces publications scientifiques, ce que le MIT peut faire, etc. Donc, vous qui êtes dans ces universités riche, c'est votre devoir, c'est ce que dit Aaron, hein, c'est votre devoir moral de le partager avec ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces abonnements, parce que sinon ils sont en dehors de la course scientifique et c'est une inégalité en fait.
Voilà, pour en savoir plus donc sur ce personnage haut en couleur que vous admirez visiblement, Flore Vasseur, s'appelle « Ce qu'il reste de nos rêves », enquête que vous avez menée avec ses proches aussi, hein, vous avez rencontré des amis et des proches, c'est publié donc aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Sophie Bécherel avec 30 secondes de retard, l'agenda du week-end.
Des conférences et un documentaire au menu cette semaine. Toujours debout, donc ça c'est le titre du documentaire de Marina Julienne et Raphaël Girardot qui sera diffusé mardi soir à 23h sur France 2. C'est une plongée dans le quotidien des hommes réparés. Alors ils ont été victimes d'un accident de la moelle épinière. En général, ils étaient d'excellents sportifs avant ça et un jour, ils se retrouvent en fauteuil roulant paraplégique. Comment vivre avec ce handicap? Doit-on s'y résoudre? Chercher à récupérer ses capacités, y compris en faisant appel à la technologie? L'équipe a suivi Vance Bergeron, qui est physicien et chercheur à l'ENS de Lyon, et son équipe, alors qu'elle se préparait à participer au premier cibathlon. Le cibathlon, c'est une compétition pour les hommes et les femmes bioniques. Ça n'a rien à voir avec l'handisport. Ça met en avant, finalement, les recherches qui sont menées là-dessus. Donc, ce sont des gens avec des exosquelettes qui marchent, des personnes dont on fait refonctionner les muscles des jambes avec la stimulation électrique, ou bien à qui on fait faire de la course par la pensée, en fait.
Donc, c'est un doc à voir mardi soir.
Donc, c'est un doc à voir mardi soir.
Allez, une dernière info, Sophie, très vite.
Deux systèmes de conférences au Palais de la Découverte. découverte. Désormais, tous les mercredis, on vous parlera de naturellement chimique. Ça peut vous sembler un oxymore, mais non, parce que la chimie, il y en a dans la nature. Hein. Tout ce qui nous entoure est entouré de molécules et d'atomes. Mais il y a aussi des choses qui sont synthétisées, fabriquées par l'industrie. Et donc, ce sont de ces choses-là que les chercheurs parlent. Donc, encore deux mercredis, 23 et 30 janvier. Et à Rennes, mardi soir prochain à 20h30, une autre conférence, celle de Sylvana Condemi, qu'on a reçue ici, dans ce studio il y a quelques semaines, autour de Néandertal et Sapiens.
Merci beaucoup. Et tout le programme du week-end, l'agenda
sur le site de la Tête au Carré.
Merci Anne-Laure Cochet, la technique. Il est 15h.